a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
Bonjour, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes à l'écoute du Libre Journal de l'École, animé aujourd'hui par Hervé Roland et Florence Leroux. Bonjour Hervé.
Bonjour Florence.
Alors aujourd'hui, nous allons traiter de deux sujets. Le premier, nous allons vous parler des actualités des éditions Critérion, avec un focus sur le nouveau manuel de lecture, Les Petits Chalises, avec notre invitée Laetitia Rib. Et puis dans un deuxième temps, nous recevrons le maire de Montfermeil, Monsieur Xavier Lemoine, qui nous parlera de sa politique éducative au sein de sa ville de Montfermeil. Mais avant cela, bien sûr, les actualités commenté par Hervé Roland.
Merci Florence. D'abord, je salue notre invité. Une grande joie et grand honneur de vous avoir avec nous.
Merci
dans le
vous.
Studio de Radio Courtoisie. Alors, comme à l'ordinaire, quelques éléments d'actualité. Alors, on va passer assez vite sur la canicule, mais il faudra bien quand même penser que les élèves ont passé les épreuves du brevet et du baccalauréat dans des ambiances qu'on peut qualifier d'assez chaudes. Et puisque nous parlons du baccalauréat, Édouard Geffray, 7e ministre de l'Éducation nationale en 4 ans, a demandé plus d'exigences dans la correction des examens. Je le cite, « Toute copie qui n'a pas un niveau suffisant en termes d'orthographe, de syntaxe et de grammaire ne peut pas avoir la moyenne du baccalauréat », a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse à la fin du mois de mai. On a envie de dire « enfin ». Un ministre qui prononce de sages paroles. On aimerait bien le croire, mais on ne peut oublier qu'avant d'être ministre, ce brillant énarque a été pendant 5 ans, de juillet 2019 à juillet 2024, le directeur général de l'enseignement scolaire, ce qu'on appelle le DGESCO, en français clair, le numéro 2 du ministère. On ne saurait donc lui dénier une certaine connaissance du système éducatif et on lui pose la question, pourquoi ne pas avoir dénoncé plus tôt le laxisme qui prévaut dans l'enseignement depuis des années dont vous étiez, cher ministre, le DGESCO? Au poste que vous occupiez, vous auriez pu donner aux 7 ministres que vous avez servis quelques conseils utiles en matière d'exigence. Mais faisons-lui néanmoins crédit de sa bonne foi, admettons une prise de conscience de ses erreurs passées. Maintenant, comment s'imaginer, ou comment imagine-t-il lui-même, que ces directives puissent être appliquées? Eh bien, dans une circulaire de rentrée publiée au bulletin officiel du mois de mai, il avait déjà écrit aux professeurs que, je cite, « l'exigence doit être au cœur de votre mission », afin de leur faire comprendre qu'ils sont potentiellement responsables du déclin du niveau scolaire. Une façon d'un peu dédonner le ministère. Rappelez quand même, ce ne sont pas les professeurs qui ont diminué les horaires de cours, qui ont imposé dans les IUFM et autres avatars les dogmes aberrants des pédagogistes ou qui ont fait se succéder les réformes sans même évaluer leur impact réel. Du reste, ces consignes martiales du ministre semblent être restées lettre morte. Le Figaro de ce matin, du 29 juin, nous en donne un saisissant exemple. Le quotidien s'est procuré des extraits des réunions académiques de préparation. Voici les propos tenus par un inspecteur le 18 juin, donc il y a quelques jours, dans le cadre de la traditionnelle réunion d'entente académique chargée de fixer les consignes de correction pour le bac. Face à lui, quelques 500 correcteurs d'histoire-géo des académies de Paris, Versailles et Créteil, connectés en visioconférence. Et là, je vais citer donc cet inspecteur, dans la mesure où une maîtrise imparfaite de l'orthographe et de la syntaxe ne gêne pas la compréhension du propos du candidat ou de la candidate, on sera attentif à ne pas pénaliser ses copies. Je rappelle notre dernière émission où un jeune garçon demandait à sa professeure « Eh wesh, c'est qui qu'on a après vous, madame ?» Donc là, je pense qu'il n'y a pas de problème de compréhension. Il veut savoir quel est le professeur suivant. Il n'y a pas tout à fait la maîtrise de l'orthographe ou de la syntaxe, mais on peut comprendre. Donc ça mérite 18, cette phrase. Wesh, l'orthographe étant débattue. Donc, en clair, l'inspecteur dit « Vous ignorez les consignes du ministre, on s'en serait douté ». Et d'ailleurs, parlons un peu des élèves. Est-ce qu'on peut incriminer les élèves d'avoir, pour la plupart, subi depuis l'école primaire les ravages d'une politique éducative mal conçue ? Les vrais responsables, ce sont les ministres de ces dernières décennies qui, le plus souvent, volontairement ou par paresse intellectuelle, ont suivi les modes idéologiques et pédagogistes les plus contestables. La conclusion, c'est que ce n'est pas en quelques semaines, ni même en un an, qu'on peut réparer les dégâts. Et ce n'est pas par quelques annonces ministérielles, l'exigence comme règle, etc., que les élèves pourront, comme par magie, acquérir subitement les savoirs et les méthodes qui auraient dû être progressivement développés et consolidés dès l'école primaire. Il faudra du temps et une autre politique pour rehausser le niveau scolaire et le niveau du baccalauréat. Le ministre est d'ailleurs conscient des insuffisances de l'enseignement public, puisqu'il n'a pas hésité, comme bien d'autres, à inscrire ses enfants dans l'enseignement privé. Il est vrai que chez nos dirigeants actuels, l'école publique est toujours assez bonne pour les enfants des autres. Deuxième actualité, toujours notre ministre Edouard Geffray, c'est l'interdiction du téléphone portable au lycée. C'est absolument majeur pour nos élèves, nous dit Edouard Geffray. Et il annonce que cette interdiction du portable sera théoriquement effective dès le 1er septembre prochain. Mais, selon Edouard Geffray, ce volet de la proposition de loi devrait être publié avant l'été pour une entrée en vigueur donc à la rentrée scolaire. Mais cette préannonce suppose l'adoption définitive de la proposition de loi qui prévoit également d'interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Là encore, l'applicabilité va rester une question intéressante. Le ministre est confiant. Il faut juste que la loi soit publiée dans l'été, ce qui sera a priori très probablement le cas, au moins sur ce volet, sous-entendu pas sur les réseaux sociaux, a-t-il expliqué, confirmant la date du 1er septembre pour l'interdiction du téléphone portable au lycée. Virgule, et c'est là la France dans toute sa splendeur, sauf dérogation particulière. Oui, parce que comme d'ordinaire, en France, on n'est pas capable de prendre une décision. On prend une décision et tout de suite on annonce qu'il y aura des dérogations. Alors il y aura peut-être la possibilité de téléphoner dans une zone à définir. Alors on n'espère pas à l'extérieur de l'établissement scolaire parce que c'est à définir. Mais voilà encore un exemple précis où les politiques ne sont pas capables de prendre une décision ferme et définitive. Concernant donc l'autre volet, donc l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, il a précisé, comme on le sait, qu'une décision de la Commission européenne était encore attendue. Et on l'a vu, plusieurs pays européens ont déjà pris des mesures, toutes parfaitement, chacun dans son coin, fonctionnement habituel de l'Union européenne. Le ministre a donc également annoncé son intention d'accompagner les établissements dans la mise en œuvre de cette mesure, en envoyant aux chefs d'établissement des éléments pour les aider à l'appliquer. Il a dit c'est une chose absolument majeure pour les élèves. Petit rappel, pour ceux qui auraient oublié, le téléphone portable est déjà interdit de l'école maternelle au collège par une loi de 2018. Qui le sait? Et cette loi est-elle appliquée? Évidemment pas. Donc, on va être très, très curieux et de découvrir les nouvelles règles qui vont être envoyées logiquement au chef d'établissement dans les jours qui viennent. Autre élément d'actualité, c'est l'association... Parents vigilants qui vient de relever dans une des classes de CE2 qu'on faisait lire aux enfants la trilogie Paris-Paradis. Nom magnifique, mais c'est pas tout à fait le paradis. Puisque dans cette classe de CE2, on fait lire à des enfants de 8 ans un extrait où le jeune Moussa, un jeune Africain sans papier, bien sûr, découvre, je cite, « Paris la dangereuse » où il apprend rapidement à se méfier des hommes en uniforme. Voilà quelque chose de parfaitement éducatif pour nos enfants. Donc, le texte précise toujours, car sans papier, s'il est arrêté, c'est l'expulsion. Alors, les parents s'indignent assez légitimement de la propagande à laquelle sont soumis des enfants, très, très jeunes élèves de 8 ans. Et là, la question que moi je pose, c'est la neutralité scolaire est-elle dans nos écoles toujours la règle? Puisque je rappelle que c'est une règle de base. Les auteurs de ce triple ouvrage, Paris-Paradis, ont, selon leurs propres mots, je cite, ressenti le besoin de bâtir un espace de liberté pour développer une ligne éditoriale réservée à la création d'albums utiles et forts. Et ils ont créé Utopique, une cabane d'édition. Ben, la cabane va tomber sur le chien. Heureusement, cet ouvrage n'apparaît pas ou pas encore dans une liste officielle de l'éducation nationale, mais le sujet, encore une fois, c'est la neutralité. Il fait partie des principes fondamentaux de l'école républicaine, au même titre que la laïcité. Et elle implique, je cite le texte officiel, que tous les agents doivent s'abstenir de manifester dans l'exercice de leurs fonctions leurs opinions religieuses et politiques. Le code de l'éducation, qui fait loi en matière d'enseignement, dispose, je cite toujours, que la mission première de l'école est de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Petite parenthèse, elles ne sont pas vraiment définies. Quand vous allez sur le siège du ministère, il y a 111 pages pour définir les valeurs de la République. Je vous conseille d'aller y faire un tour et de ne pas vous y perdre. Mais c'est un autre sujet. Donc, on se demande où est passée la neutralité de l'école dans un cas comme celui-là. Alors, donc, que cet ouvrage soit étudié, c'est scandaleux, mais ce qui est scandaleux, c'est que ce n'est pas un réseau de parents, en l'occurrence parents vigilants, qui doit s'en émouvoir, mais ce serait le ministère, ce serait plus logique. Mais tout professeur peut en gros faire lire ce qu'il veut, et c'est ça l'autre sujet à traiter. Dernier sujet d'actualité, assez intéressant celui-là également, c'est à propos de l'agrégation d'histoire. Et on apprend par le Figaro de la semaine dernière que le programme de l'agrégation d'histoire comprend désormais une question intitulée « Régimes et mouvements autoritaires en Europe de 1918 à 1939 ». C'est une bonne idée, c'est une excellente idée, dans la mesure où la démocratie est quand même toujours un peu bancale, toujours un peu menacée, surtout en ce moment, en tout cas toujours perfectible. Cela dit, l'explication du choix du thème laisse plus que perplexe, car dans la lettre de cadrage que le jury associe à ce choix, on peut lire « Les futurs enseignants et enseignantes sont appelés à réfléchir sur les origines et les logiques présidant à la remise en question des régimes démocratiques consacrés par la victoire de 1918 et rétablis en 1945. » Mais il est tellement précisé « Ah, au fait, on ne doit pas traiter de l'Union soviétique. » On est entre 1919 et 1945. Peut-être certains ont entendu parler de Staline, du stalinisme, de barbarie, et même d'ailleurs des procès de Moscou, qui ont quand même vu des vrais, purs et jurs communistes torturés, s'accuser d'être de mauvais communistes. On aura vu. Eh bien non, ça, il ne faut pas en parler. On a beau préparer l'agrégation d'histoire. Il n'y a jamais eu de barbarie soviétique entre 1918 et 1945. Donc, en limitant volontairement la fenêtre des heures sombres à cette période, on oublie donc tout ce qui s'est passé pendant cette période, y compris après, et tout le mur de Berlin, etc. Et on oublie aussi, je regardais hier d'ailleurs une émission très intéressante, c'était sur les oubliés des brigades internationales. Et fait que les responsables de gauche ont tendance à passer sous silence, c'est l'espèce d'invraisemblable guerre civile à l'intérieur de la guerre civile, à Barcelone, quand les communistes ont pris le pouvoir et ont décidé d'éliminer tout ce qui n'était pas rigoureusement communiste, en gros les anarchistes, les trotskistes, etc. En particulier de nommer Andreus Nin, qui était le ministre de la justice, justement, de Catalogne, qui a été torturé et assassiné par les communistes parce qu'il était anarchiste ou un peu catalan en plus. Donc tout ce qui ne plaisait pas aux communistes. Donc ça, pareil, ça n'a pas existé. Ça se passe pourtant exactement dans la fenêtre de tir de l'agrégation d'histoire. Donc, les années de plomb, des années 50, où les marxistes régnaient en maître sur l'université française, on pensait que c'était derrière nous. Eh bien non, pas encore. Alors, le Figaro suggère une autre piste que je trouve effectivement très intéressante. C'est pour les jeunes, ou moins jeunes, qui voudraient enseigner sans avoir à baiser l'agneau du cadavre rouge, qui malheureusement bouge un peu encore. On conseille la préparation de l'agrégation de lettres classiques, si injustement oubliées. À travers la littérature antique, les dieux, les déesses, les héroïnes, portées par la langue géniale qu'est le grec ancien, par la langue beaucoup plus précise qu'est le latin, tous ces dieux, déesses, héros nous apparaissent extraordinairement familiers. Nous connaissons les défauts d'Ulysse ou d'Achille, les colères de Cicéron, de Caton, les catilinaires, les mesquineries des généraux romains ou des dieux de l'Olympe. Et espérons du moins parfois les fulgurances littéraires d'Homère, etc. C'est cela le véritable humanisme dont on nous rebat les oreilles, mais dans un délire de petit prof stalinien à la mémoire borgne. Voilà pour l'actualité.
C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin.
c'est le tango des bons pères qui surveillent l'œil sévère, les Jules et les prospères.
Alors Hervé, pour continuer notre émission, nous allons parler des éditions Critérion. Donc les éditions Critérion, c'est une édition qui est en partenariat avec la Fondation pour l'école, qui a été créée il y a quelques années. Et c'est une collection de références autour des matières scolaires principales. Et elle est destinée aux enseignants, aux élèves, aux familles, ou même au grand public. Et elle permet de transmettre les savoir-faire fondamentaux et les éléments essentiels de la culture. Alors, il y a quelques produits phares dans cette collection, notamment les manuels d'histoire-géographie. En cette veille de vacances plutôt, il y a toute une collection sur les cahiers de vacances Jules et Léonie. Je crois que vous avez testé avec vos petits-enfants. Peut-être que vous voulez en dire quelques mots, Hervé.
Oui, alors j'ai pas tout réussi. Hein. Surtout, je passe de la moyenne section à la grande section. Là, c'est de plus en plus dur. Hein. Il se trouve que j'ai toute la classe, sauf le passage grande section à CE1. Il y a un trou bizarre. J'interrogerai mes enfants en disant que s'est-il passé. Et donc, j'ai eu l'occasion d'en acheter 6 d'un coup. Et effectivement, c'est très bien fait. C'est d'un niveau assez supérieur à, pour le dire très clairement, à un certain nombre de cahiers de vacances. Ça n'empêche pas qu'il y ait des jeux. Et puis, c'est surtout très progressif, puisque j'ai la chance de partir, si j'ose dire, de la petite section pour mon petit Gabriel et d'arriver jusqu'à Philippine, qui elle attaque le CM2, donc là ça rigole plus. Et donc, c'est très bien fait, c'est très progressif, c'est très pédagogique surtout, et ça reste ludique, donc félicitations.
Oui, avec beaucoup d'éléments de culture aussi.
Alors voilà, ce qui est différent, c'est que ça nous apprend l'histoire, la géographie, en complément de tout ce qui manque. Parfois, j'admets qu'il y a certains cahiers de vacances qui sont de qualité, mais là, franchement, c'est monté d'un cran et donc félicitations.
Voilà. Donc, pour les auditeurs qui souhaiteraient offrir ça à leurs petits-enfants ou même à leurs enfants, vous trouverez ça dans toutes les bonnes librairies. Et alors, donc, le dernier né des éditions Critérion, c'est un livre préparé par Laetitia Rippe qui s'appelle « Les petits chalises ». Bonjour Laetitia, vous m'entendez? Laetitia,
on la voit mais elle ne nous entend pas.
Alors. Ah. Oui.
Ben, nous sommes en train de chercher Laetitia qui ne va pas. Alors peut-être nous parler un peu de.
Des manuels de.
Chalise, alors d'abord ça veut dire quoi
Les petits. Alors, il faut peut-être le dire lentement parce que je pense que les auditeurs n'ont pas forcément compris.
C'était pour me moquer gentiment de vous.
Alors, les petits chats, miaou, lisent. Donc, c'est un manuel de lecture complété par un petit manuel d'écriture. Et donc, c'est un très beau manuel avec trois petits chats qui ressemblent étrangement aux trois petits chats des Aristochats. Et voilà, donc Laetitia a été longuement maîtresse de CP, et donc elle a essayé plusieurs manuels, et puis finalement elle a créé le sien, et elle l'a fait tester auprès de différentes écoles, et cela a donné de très bons résultats, donc elle a approfondi ça. Laetitia, vous nous entendez là? Vous pouvez... Allô?
Oui, ça y est.
Oui, parfait. Donc nous étions en train de parler de votre ouvrage sans vous.
On n'entend pas parler des chalises. J'ai compris que c'est des chalises. C'est pour ça que j'ai eu du mal avec moyenne section à grande section.
Donc Laetitia, bienvenue, au Libre Journal de l'école. Vous publiez un nouveau manuel de lecture dont nous parlons, fondé sur une méthode syllabique. Donc son ambition, aider les enfants à entrer dans la lecture avec confiance et plaisir. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce manuel?
En fait, j'ai rencontré lors d'une formation à l'ILFM une maîtresse qui avait fait le sien et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, en fait, moi aussi, j'ai envie d'avoir mon livre à moi, qui soit personnalisé, qui ait mes choix et mes partis pris. Alors, j'ai attendu un petit peu d'avoir un peu plus d'expérience et puis après, je me suis lancée dans cette aventure qui est vraiment, vraiment incroyable, d'avoir un outil qui me ressemble et qui me plaît.
Coupez la caméra, Laetitia, peut-être. Comme ça, on vous entendra mieux.
Pour les auditeurs de Courtoisie, voilà. On va faciliter leur audition.
Voilà, allez-y.
D'accord. Vous m'entendez?
Oui, allez-y.
Allô?
Oui, c'est bon, allez-y, continuez.
Donc c'est toujours pour la première question. Du coup, voilà, j'ai rencontré une maîtresse qui avait écrit le sien et je me suis dit, en fait, moi aussi, j'ai envie de faire pareil. Je ne pensais pas que c'était possible à la base et de faire quelque chose de personnalisé qui me ressemble, où j'ai vraiment les choix des parties pris de typographie, de mise en page, de progression. Je me suis dit, c'est génial, en fait, je veux faire pareil. Mais j'ai attendu quelques années d'abord avant d'avoir un peu plus d'expérience. Et puis après, je me suis lancée dans cette belle aventure.
Oui. Et donc vous l'avez fait tester par des collègues. Allô, allô,
Oui,
Laetitia? Oui,
alors à la fois des collègues expérimentés et d'autres débutantes.
oui.
Comme ça, je pouvais avoir des retours qui puissent m'aider à corriger, améliorer.
Oui.
Et puis les retours étaient très bons, donc j'ai vu que ça s'adaptait vraiment à toutes les maîtresses, pas seulement à moi. Et donc c'était très rassurant et ça m'a confortée dans ce choix de passer par l'édition.
D'accord. Et alors, vous avez choisi une méthode syllabique. Qu'est-ce qui vous convainc dans cette approche pour les élèves de cours préparatoires?
Alors, pour moi, la méthode syllabique, c'est vraiment la plus adaptée à des élèves de CP. Je pense qu'on n'a plus besoin de le prouver. Elle a fait ses preuves depuis des décennies. La méthode globale ou même semi-globale, pour moi, c'est une méthode plutôt pour quelqu'un de confirmé, pas un débutant. Parce qu'on apprend en photographiant sans comprendre. Il n'y a pas toute la mise en place du décodage, de l'automatisation. Alors que la méthode syllabique est vraiment, vraiment progressive. Du coup, l'enfant n'a plus besoin de petit à petit de décomposer, il va gagner en rapidité, en fluidité et surtout en compréhension. Ce qui est très important, c'est de bien comprendre ce qu'on lit. Et on a bien vu qu'une méthode syllabique, les résultats sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus satisfaisants aussi.
Oui, donc votre progression est très progressive. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu pour que les auditeurs puissent imaginer ce qu'est votre ouvrage? Vous partez donc des lettres.
Oui, c'était un des partis pris très importants. Oui, on associe les sons, on forme des syllabes, puis après des mots et enfin des phrases et des petits textes. Je voulais vraiment avancer en douceur pour avoir des bases bien solides. Ça ne sert à rien d'aller vite si ce n'est pas bien mis en place. Donc, je décortiquais vraiment chaque leçon en avançant étape par étape. Parce que, bon, on ne va pas se mentir, la langue française est parfois très complexe, il y a beaucoup d'exceptions, il y a beaucoup de choses que moi j'ai voulu mettre en exergue, les petits cadres verts par exemple.
Oui.
Et je voulais que l'enfant soit capable de lire tout seul et de comprendre ce qu'il lit. Parce qu'il y a un côté très, très sécurisant, très rassurant. L'enfant ne dira pas, oh là là, c'est inaccessible, je ne suis pas capable de lire. En fait, je voulais vraiment le mettre à sa portée, à la portée aussi des enfants en difficulté par exemple,
Oui.
pour que tous soient dans la réussite, soient contents d'eux et fiers d'eux. Parce que c'est vraiment les petites réussites qui font de la confiance, hein, on le sait, et du coup qui donnent envie de continuer, qui est un vrai moteur de motivation en fait.
Oui, et votre manuel donc, ne s'arrête pas au déchiffrage. On y trouve donc aussi du vocabulaire, de la grammaire, et puis à la toute fin des comptes. Pourquoi est-ce si important, tous ces éléments que vous avez ajoutés à votre manuel?
Oui. Je voulais avoir un livre vraiment complet. Parce que oui, déchiffrer, c'est indispensable. Mais la lecture, c'est pas seulement prononcer des mots. C'est aussi comprendre, découvrir, rentrer dans une histoire. Donc si on n'a pas de vocabulaire, on est très limité dans la compréhension et même dans l'expression. Hein, c'est vraiment la base du CP, le vocabulaire. Et pareil pour la grammaire. Je trouvais intéressant de commencer dès le CP. C'est assez ludique, hein, c'est léger, c'est juste une découverte, une initiation. Mais au moins, les enfants ont déjà abordé des notions importantes. Ils ont acquis des notions de nom, de verbe, de singulier, de pluriel. Et du coup, déjà à cet âge-là, ils sont vraiment, vraiment capables et ça permet une entrée en CE1 beaucoup plus facile parce qu'ils ont vraiment des bonnes bases sans même se rendre compte. Et puis pour les histoires, j'aimais bien les contes, moi petite. Et je me dis que c'est quelque chose qui peut être motivant pour l'enfant parce qu'il connaît plus ou moins l'histoire. Mais là, de la lire lui-même, en fait, ça change tout. Il peut la redécouvrir avec des détails en plus. Il peut la lire à son petit frère, par exemple. Et c'était vraiment, moi je l'ai vu avec mes élèves, hein, une fierté, une motivation. C'était les pages qu'ils attendaient avec impatience, ils les feuilletaient en avance. Donc c'était aussi une manière de voir les fruits de son travail. On ne lit pas juste pour lire, on lit pour accéder après à des histoires passionnantes.
Oui, vous m'aviez raconté une anecdote amusante à ce sujet. Vous voulez nous la raconter à nos auditeurs?
Oui. Ah oui, avec plaisir. Elle m'a beaucoup marquée. C'était ma première année où j'utilisais mes livres. Une petite qui était vraiment perdue, la pauvre. Elle avait du mal à mémoriser les sons, à les assembler, à rentrer vraiment dans la lecture. Le déchiffrage n'était pas du tout automatisé. Et on arrivait vers Noël et vraiment, on commençait à s'inquiéter. Et puis un jour, elle a feuilleté justement en avance le livre et elle a vu le dessin du chaboté. Et elle s'est mise en tête de lire cette histoire avant tout le monde. Du coup, chaque petite pause, chaque temps mort dans la journée, elle ouvrait ses pages du chaboté et elle essayait de lire, alors qu'il y a des sons qu'on n'avait pas vus, hein, donc c'était dur pour elle. Et elle venait me voir, maîtresse, oh, I, ça fait quoi? Ça fait ouah. Puis elle repartait lire, maîtresse, E et U, ça fait quoi? Et en fait, elle a d'elle-même cherché à tout découvrir, tout comprendre, et ça a été pour elle un cap, vraiment un déclic. Et elle s'est mise dans la lecture en quelques jours, vraiment. Elle a vraiment décollé, comme on dit. C'était un vrai petit miracle, la magie de la lecture, où l'enfant a envie d'apprendre et elle a vraiment rattrapé le niveau des autres. Et c'était très, très beau à voir. Vraiment, c'est un très beau souvenir.
Oui, c'est une classe charnière incroyable que celle du CP, là. Et est-ce que vous avez une autre anecdote à nous raconter avant de peut-être parler de votre...
C'est sûr.
Oui, allez-y.
Oui, j'avais un petit garçon, justement, pareil, la première année où moi, je ne savais pas trop ce qu'allait donner mon livre de lecture, parce que je l'ai testé en même temps que je l'écrivais. Et j'ai un petit qui n'aimait pas du tout, du tout, du tout la lecture, qui ne voyait pas l'intérêt, qui, en soi, il savait faire, mais il n'était pas demandeur, pas motivé. Et en fait, à la fin du livre, quand on l'a fini, il était tout déçu en disant « Oh non, c'est déjà fini, les petits chats. Mais moi, j'aimais trop ce livre, j'en veux un autre. » Et du coup, je me dis « Bah ça y est, j'ai tout gagné. C'est une méthode qui plaît aux enfants. » Même aux enfants qui n'aiment pas lire. Et là, je me suis dit vraiment, face à ce petit, bon, bah, pari réussi, quoi.
Et donc, il y a ce beau manuel de lecture et il est associé donc, à un manuel d'écriture. Donc, les petits chats écrivent. Est-ce que vous pouvez nous en parler et pourquoi avoir associé finalement est-ce que c'est important d'associer la lecture à l'écriture
Oui, tout à fait. C'est indissociable même, je dirais. On apprend en même temps lecture et écriture. Et moi, je voulais vraiment une méthode complète, clé en main. Donc, je ne pouvais pas faire juste un manuel de lecture. Il me fallait à la fois l'écriture, la phonologie, les copies, les dictées, la grammaire, les productions d'écrit. Donc, j'ai vraiment tout conceptualisé en un package tout prêt, clé en main, on peut dire.
Vous n'avez pas dit package, là, on est à Radio Courtoisie, là, je vous
rappelle.
Je voulais
aussi que les maîtresses gagnent du temps, parce que mine de rien, faire ces modèles d'écriture à la main, bah, c'est... Pardon, un paquet.
Oui, c'était un paquet, on a bien entendu paquet.
C'était important d'avoir quelque chose... Un paquet.
Allez-y.
Un paquet complet, voilà, je voulais une méthode vraiment prête à l'emploi, clé en main pour les maîtresses. Et c'était intéressant à faire parce que vraiment, on réfléchit à tout parce que c'est pas que la lecture. C'est à quel moment j'insère ma leçon de grammaire, comment je l'explique, comment je la passe à l'écrit, comment je la rends un peu ludique et pas trop, trop théorique. Vraiment, c'était pas simple, mais je trouve ça bien pour les maîtresses, notamment les débutantes. Moi, j'ai eu beaucoup de débutantes qui m'ont demandé d'avoir quelque chose de rassurant, de tester, corriger, améliorer.
Très bien. Et donc, justement,
ne suppose pas que les maîtresses piochent dans divers livres comme moi j'ai fait.
Oui. Et alors, justement, quel message aimeriez-vous adresser aux enseignants qui découvriront votre manuel ou qui souhaiteraient éventuellement le prendre pour la rentrée prochaine?
Ben justement, je voudrais les rassurer en disant qu'il a été testé, approuvé, aimé autant par les enfants que par les maîtresses. Les retours ont été très bons. Et j'ai l'impression que chacun a envie d'en parler aux autres. Donc, c'est très positif. Les enfants, quand ils l'ont entre les mains, ils regardent toujours les pages suivantes. Ah tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben moi, j'adore ces exercices à relier. Ils sont vraiment demandeurs. C'est un âge fabuleux, le CPE, c'est parce qu'ils ont envie de travailler. Et moi, je voulais vraiment un livre justement qui donne envie de travailler. Donc, je dirais aux maîtresses, vraiment, rassurez-vous. Il a plu. Et moi, je me suis régalée avec. Donc, je vous souhaite d'avoir le même plaisir que moi à l'utiliser, vraiment.
Et alors, si les enfants devaient retenir une seule chose de leur première année de lecture grâce à votre méthode, laquelle aimeriez-vous que cela soit?
Ben, j'aimerais qu'ils se replongent dans leur premier jour de CP, où ils avaient une envie d'apprendre à lire qui était incroyable, une soif d'apprendre, et qu'ils se rendent compte au bout d'un an où ils en sont, en fait. Ils ont tellement progressé, tellement... Comment dire? Ils ont ouvert une porte... couvre la lecture, qui est incroyable, et qui garde surtout ce goût de lire. Il l'avait en début de CP, il faut qu'il le garde en fin de CP, il faut qu'il le garde en CE1, CE2, toute leur vie. C'est cette petite flamme au fond du cœur, ce désir qui doit vraiment cultiver.
Merci beaucoup Laetitia Ribes.
Merci Laetitia et bravo.
Oui, alors sur la couverture de votre très beau manuel, il y a trois petits chats qui rappellent immédiatement Marie, Berlioz et Toulouse, des Aristochats. Oui. Peut-être que c'est un clin d'œil volontaire ou une simple coïncidence. En tout cas, il nous donne une belle transition vers la musique que nous allons écouter à présent. Merci beaucoup Laetitia.
Merci.
Bon
S'il
été.
S'il vous plaît, maestro. Oh maman, il a recommencé. Cafarde.
Oh, Berlioz. S'il vous plaît, chérie, installez-vous. Faites-moi plaisir, chantez votre chanson.
Oui, maman. Do, mi, sol, do, sol, mi, do. Le vrai musicien répète avec ardeur de savante gamme et des arpèges. Mais il faut qu'il sache que sa voix doit sortir du cœur en chantant ses gammes et ses arpèges. Chaque jour les pratiquer, nous verrons nos progrès vite encouragés. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, fa, la, do, répétons nos gammes et nos arpèges. Do, mi, sol, do.
Vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Alors Hervé, après cette... petite page musicale des Aristochats, nous recevons le maire de Montfermeil, Xavier Lemoine. Bonjour Xavier.
Bonjour, merci de,
monsieur le maire.
De votre invitation.
Bonjour monsieur le maire.
Oui, monsieur le maire.
Non.
Donc vous êtes maire de Montfermeil depuis 2002 et président du Grand Paris Grand Est.
Je l'étais.
Vous l'étiez.
Bon. Je n'ai pas été reconduit dans ces fonctions-là.
D'accord. Et donc, vous avez conduit une action marquée et vous avez une réflexion forte sur le lien entre l'éducation, la culture, la sécurité et la cohésion nationale, la sociale, pardon. Et donc, nous allons revenir avec vous sur cette expérience et sur les enseignements que vous avez pu tirer de vos politiques éducatives locales.
Bien volontiers.
Alors, Hervé, votre première petite
peut-être
question.
Peut-être avant de parler école... On n'oublie pas que Montfermeil est une commune de la Seine-Saint-Denis, un département dont on parle, on va dire, de manière régulière, surtout depuis quelques temps. Et j'ai envie de vous dire, 2002-2026, c'est une très belle période, mais c'est une période qui a vu aussi en France beaucoup de changements. Donc peut-être la première question toute simple, vous nous présentez rapidement Montfermeil, et puis qu'est-ce qui a changé pour le maire que vous êtes entre 2002 et aujourd'hui? Mais d'abord, parlons un peu de Montfermeil.
Très rapidement, Montfermeil est une commune de 30 000 habitants à peu près, située à 15 km de Paris, 15 km de Roissy, 15 km de Marne-la-Vallée, au cœur du triangle le plus riche d'Europe, sur le point culminant de la Seine-Saint-Denis, un plateau qui domine et la plaine de France, donc Roissy, et la vallée de la Marne, avec une population qui est composée, on va dire, d'un tiers de Gaulois, un petit tiers maintenant, un autre tiers de personnes qui sont nées à l'étranger et qui, depuis, ont acquis la nationalité française. Et puis un tiers de population qui reste avec une carte de séjour, lorsqu'il y a une carte de séjour, puisqu'il y a aussi une composante non négligeable de personnes qui ne sont pas forcément avec des papiers, mais qui pour autant vivent et travaillent d'ailleurs à Montfermeil ou dans les environs. Voilà, une population très, très jeune et avec une présence très, très forte de personnes qui ont une pratique ou une culture musulmane. Et 50 nationalités à peu près différentes. Oui. Donc ça fait un beau patchwork. Alors je précise parce que des gens me disent mais comment faites-vous ? Et bon, j'ai eu la chance d'être marin pendant 10 ans, marine marchande, de 16 ans à 25 ans, d'avoir fait le tour du monde, et à part le Pacifique que je n'ai pas fait, j'ai fait à peu près tous les autres pays. Et donc si j'ai quitté la marine, c'est que les escales devenaient de plus en plus courtes et ma capacité à rentrer en connaissance et en échange avec ces différentes cultures, systèmes politiques, culturels, religieux, que sais-je, je poursuis, j'étais chez les autres, ils sont désormais chez moi, entre guillemets, mais c'est le même dialogue qui continue et ça a été pour moi un guide extrêmement précieux et important. Et puis connaître ce qui se passe dans les pays des personnes que nous accueillons peut permettre des fois d'avoir des raccourcis, oui, et des mises au point en disant « Écoute, je suis allé chez toi, j'ai pas vu ça et tu veux me... Bon, voilà. Ah, tu connais ? Ah oui, je connais. Bon,
voilà. » Je ne les connaisse pas non plus.
Non, justement. Voilà. Donc c'est une petite précision pour... Alors, voilà pour la présentation rapide. C'est une ville qui, effectivement, a défrayé la chronique très tôt. On se souvient peut-être de l'affaire du voile de Creil, mais la première affaire à dimension nationale a été à Montfermeil avec le proviseur M. Boumédienne de Jean Jaurès. Ensuite, il y a eu les débats homériques entre Pierre Bernard, mon prédécesseur, dont j'étais le directeur de cabinet, et Harlem Désir à la naissance de SOS Racisme, avec des combats politiques et des manifestations assez dures. Donc une ville qui s'est fait connaître pour ça. Et puis les fameuses émeutes de 2005, Clichy-sous-Bois-Montfermeil. Si la première nuit a été une nuit strictement clichoise, au regard du lieu de résidence des deux enfants qui sont morts, Ziad et Bouna, et du troisième qui était gravement, très gravement blessé, toutes les autres nuits ont été à cheval entre nos deux villes, et donc les télévisions ont fait le
rapprochement.
Le rapprochement, et puis voilà. Donc, et ensuite, il a fallu attendre Jean-Louis Borloo, il nous avait précédé, puisque c'est avec lui que nous avons énormément travaillé. Je tiens d'ailleurs Jean-Louis Borloo pour l'un des plus grands ministres que nous ayons eu ces 40 dernières années, avec la création de l'Agence nationale de renouvellement urbain. Ce qui me permet de dire que la première des choses, et ça a été la priorité de mes deux premiers mandats, avant la culture, avant l'éducation, alors c'était même pas de la sécurité, on était dans du maintien de l'ordre, et c'était même pas la police municipale qui s'en occupait, c'était les CRS et les gendarmes mobiles chaque soir qui montaient en colonne, et les hélicoptères et les drones qui nous survolaient, donc c'était vraiment du maintien de l'ordre à l'époque. La première des choses que j'ai voulu faire, et grâce à Jean-Louis Borloo, c'est redonner dignité et fierté à toutes nos populations par l'extrême qualité de ces trois échelles qui sont l'urbanisme, c'est-à-dire la ville pour tous, l'architecture, qui est ce que je donne à voir du lieu où j'habite, et où j'abrite ma famille, et l'espace public, c'est le lieu de l'échange, de la courtoisie, de l'échange et de la courtoisie. Et ça, j'ai eu j'étais entouré de très très bons urbanistes et architectes que j'avais connus dans une vie antérieure. Et là-dessus, j'ai un soin tout particulier. Quand j'ai un soin tout particulier, c'est de regarder chacun des permis de construire, de les discuter avec les architectes, le plan guide d'urbanisme de la même manière. Je vais sur les chantiers, je me fais présenter les échantillons de ceci, de cela, etc. pour que ce soit beau. Voilà. Et je ne transige pas avec ça. Et je me souviens d'un témoignage un jour d'un principal de collège qui me dit « Monsieur le maire, vous savez, nos collégiens avant qui habitaient les Bosquets notamment, puisque c'est cette résidence qui a bénéficié, fameuse résidence, avant ils étaient sur un registre de survie. Et donc quand on est sur un registre de survie, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Et donc c'est l'immédiateté qui fait qu'on réagit, et l'apprentissage qui permet de se projeter, c'est pas l'ordre du jour. » Il me disait, désormais, je dirais, en retrouvant cette dignité, cette fierté, cette tranquillité, eh bien, on a des enfants qui arrivent à se projeter. Et moi, je l'ai vu. Quand j'étais jeune maire et que j'interrogeais les collégiens au moment du brevet, qu'est-ce que tu... Alors, quand ils avaient le brevet, que veux-tu faire? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui t'intéresse? Je n'en sais rien. Enfin, bon, très triste. Oui, le mur est très triste. Et aujourd'hui, j'ai un vrai bonheur d'aller à ces mêmes cérémonies de remise de brevets. Et même les jeunes qui n'ont pas le brevet sont invités à cette cérémonie et ils partent en techno ou autre. Mais ils savent pourquoi, alors qu'avant, c'était le rebut. Et maintenant, c'est à chaque fois, moi, monsieur le maire, je veux faire ça, je veux faire architecte, je veux faire ingénieur, je veux faire du droit. Je vais travailler dans la société de papa ou de mon cousin, etc. Bon, une projection dans l'avenir, on a des trajectoires. C'est une ville, pour tout de suite arriver à quelques résultats, qui est passée de plus de 220 voitures brûlées par an et de 200 vols à l'arraché par an que j'avais il y a 20 ans, à moins de 10 dans chacun de ces cas-là. Et si j'étais l'une des villes les plus insécures de la Seine-Saint-Denis, nous sommes désormais l'une des villes, dans les 5 premières, les plus sécures de la Seine-Saint-Denis. Avec les mêmes populations et etc., même famille. Mais la perspective de vie qu'on leur donne, qu'on leur a donnée, a changé de tout au tout les comportements. Donc ça, c'était vraiment le premier sujet, dignité et fierté. C'est un préalable à tout, ce n'est suffisant en rien. Si on s'arrête là, et c'est peut-être une des limites de la politique de la ville, c'est d'être allé sur la rénovation urbaine qui était indispensable, mais si ce n'est pas accompagné pour le coup après de politique éducative et de politique culturelle, et je dirais même d'abord de politique culturelle et de politique éducative après, car je tiens à titre personnel la culture pour être la clé de voûte des 40 métiers différents qu'un maire peut exercer sur sa commune. Et là aussi, la politique de la ville, elle a répondu à des conséquences, à des difficultés, donc effectivement qu'il y ait des décrochages sociaux, des décrochages économiques et des décrochages urbains dans nos quartiers, c'est une réalité. Qu'il faille des politiques de rattrapage, ça s'appelle la politique de la ville, mais on est dans l'ordre des conséquences, on n'est pas dans l'ordre des enjeux, des causes. Et pour moi, les causes sont d'ordre culturel. Voilà. Et donc ça, c'est ma conviction, je n'ai pas toujours été suivi par tout le monde. Aujourd'hui, en privé, mes collègues maires, quelle que soit leur sensibilité, acquiescent à la proposition, même si la posture publique n'est pas toujours très, très aisée pour eux. Mais moi, j'ai vraiment mis l'accent là-dessus. Et puis, on va arriver tranquillement sur les politiques culturelles, je pourrais en reparler tout à l'heure, mais je vais continuer parce qu'on a énormément de populations primo-arrivantes, qui arrivent d'une cinquantaine de pays différents. Alors, c'est par vagues successives. Si on a eu effectivement le Maghreb sur la ville de Montfermeil historiquement, puis ensuite on a eu l'Afrique subsaharienne, puis en 89, à la chute du mur de Berlin, on a eu les premières familles turques qui partaient d'Allemagne, mais qui ensuite ont fait venir leurs familles qui étaient restées en Turquie. Puis ensuite, on a eu l'Europe de l'Est. Là, on a toujours l'Europe de l'Est. Et puis ensuite, Sri Lankais, Tamoul, Pakistanais. Et puis, au fur et à mesure, je dirais, ou des catastrophes économiques, ou climatiques, ou politiques qu'il peut y avoir à travers le monde, eh bien, on voit les populations. Donc, énormément, tous les ans, plusieurs centaines de familles primo-arrivantes et ne maîtrisant pas le français. Alors, il y a plusieurs aspects dans la non-maîtrise du français, mais il y en a un qui a trait à l'éducation, c'est l'incapacité de rentrer en contact avec l'institution éducative, l'éducation nationale. Et on s'est aperçu que en redonnant la maîtrise, ou en donnant la maîtrise du français au papa et au maman primo-arrivant, on leur donnait immédiatement la capacité de rentrer en communication avec l'institution éducation nationale, et de ce fait-là, le planning, les mots, le cahier de notes, etc., étaient compréhensibles par eux-mêmes, pas par le truchement de l'enfant qui racontait ce qu'il avait envie de raconter selon ce qu'il avait marqué dessus. Et donc tout de suite, ils restaient branchés et préoccupés et en capacité d'intervenir sur la trajectoire de leur enfant. Et on s'en était aperçu assez rapidement, puisqu'on a vu les taux de difficultés scolaires chuter à peu près de 60 à 70% des difficultés scolaires en remettant les parents en capacité de rentrer en communication. Bon, après, il peut y avoir d'autres difficultés, c'est d'autres dispositifs. Et cette plateforme linguistique, alors c'est pas apprendre B à bas avec des boulis
de... petits
voilà.
Chats,
mais pourquoi pas, mais toutes les méthodes sont bonnes. Toutes les méthodes sont bonnes, mais c'est surtout, et avant tout, à partir d'éléments culturels. Et donc, quand on va voir le musée des Invalides ou visiter les Invalides, quand on va voir le musée de la guerre à Meaux, quand on va faire les plages de débarquement, mais quand on va à Amiens pour voir les ortillonnages, le Champagne à Reims et le musée d'art moderne de Chartres, vous avez bien compris qu'il n'y avait pas que les ortillonnages, le Champagne et le musée d'art moderne de Chartres, il y avait aussi ces trois cathédrales-là.
Oui, bien sûr. Bien.
Et donc, elles sont à chaque fois au programme. Et un petit Fioretti pour aller vite, je sais qu'on a le temps et c'est l'agrément qu'on a en étant à Radio Courtoisie, mais un petit Fioretti, une maman qui sort de la cathédrale de Chartres et qui va voir sa formatrice, que je connais bien par ailleurs, et qui lui dit, je vais l'appeler Cécile, voilà, Cécile, tu te rends compte, cela fait 15 ans que j'habite en France, je ne m'étais pas encore intéressé à la France. Bon, et ben ça c'est un regard qui change, une intelligence et un cœur qui changent. Derrière, les enfants suivront. Et si papa est encore un peu réfractaire, il aura et la maman et les enfants contre lui. Donc, avec
un peu de
patience, il va sans doute s'y mettre. En tout cas, on peut l'espérer et le croire. Une autre anecdote, mais qui n'en est pas une. J'ai des listes d'attente. Chaque été, on envoie une soixantaine de Montfermeillois de la résidence des Bosquets au Puy du Fou. Bien, j'ai des listes d'attente et les gens sont là à 10h le matin alors que ça ouvre à 14h pour être les premiers et être sûrs de partir. Et encore, pour aller plus loin, pour montrer que cette puissance de la culture, la première année de toutes, dans les familles qui s'étaient inscrites, il y avait deux jeunes délinquants, mais chevronnés, 80 interpellations chacun,
ah oui.
Frères de frangins. Pardonnez-moi, c'est peut-être pas, on n'a pas le droit de dire des gros mots ici, mais vous avez compris, des gros enquiquineurs. Très, très pénible. Et ma directrice de la politique de la ville en pleurs, Monsieur le maire, le voyage est foutu, c'est affreux, ça va mal se passer, etc. C'est le premier, hein, qu'est-ce que, il faut pas qu'ils viennent, il faut pas qu'ils partent. Je lui dis non, Aurélie, laissez faire, ne dites rien, et lorsqu'ils seront là-bas, ils verront la profondeur historique et ils respecteront. Le voyage s'est merveilleusement bien passé. Malgré leur antécédent. Voilà. Donc, si je devais résumer à partir de cette petite séquence ce que j'ai tenté de faire en 24 ans de mandat, j'ai tenté de faire connaître, respecter et aimer la France. Connaître, on ne peut pas en vouloir des personnes de ne pas nous respecter, de ne pas nous aimer si on ne s'est pas fait connaître parce que l'on a de plus aimable. Voilà. Si c'est pour... se bagarrer avec les parents qui, dans les années 2013, ont retiré leurs enfants des écoles de la République parce qu'il y avait l'introduction de la théorie du genre à l'école. Là, on fait fausse route. Et je suis passé de 15 familles qui scolarisaient leurs enfants à la maison à 95. Ouais. Les familles ont retiré, parce que nous ne faisons pas la différence entre l'éducation nationale et les services municipaux et les centres de loisirs, ont retiré leurs gamins des centres de loisirs et les ont repris en louant des grandes salles dans la zone artisanale de Montfermeil, pour les reprendre en main, au regard d'une crainte qu'ils avaient à ce que certains sujets sociétaux leur soient communiqués. Et puis ensuite, on a vu des familles chercher des terrains pour construire des écoles coraniques, ce qu'ils ont pu faire sur la ville de Clichy-sous-Bois. Et ça a été une des raisons pour laquelle j'ai, avec mes amis Eric Mestrelet et Anne Coffinier, leur dire, voilà, j'ai cette difficulté-là, comment on restaure le lien de confiance entre les institutions, la République, et les familles. Lien de confiance qui a été bien abîmé. J'avais deux autres sujets, c'est terrible, mais ça existe. Ce sont les bouffons. Alors les bouffons, c'est les premiers de la classe dans nos écoles, mais qui sont cassés la gueule à la récré, parce qu'être premier de classe, c'est faire allégeance au pays d'accueil, et ça ne se fait pas.
Ouais.
Ils ne sont pas des centaines, mais quel gâchis, c'est terrifiant. Et puis, les agités. Alors, les agités, moi, je suis un pur produit de l'échec scolaire républicain. Je n'ai pas de brevet. Je n'ai même pas été admis à l'oral de rattrapage. J'avais 3 de moyenne, donc ça ne pouvait pas le faire. Et la seconde fois, je suis allé au sport. Je ne suis pas allé au reste. Et je n'ai pas de bac. Bon, donc je suis parti à 16 ans comme mousse. Il n'y a que la marine qui voulait de moi. Bon. Mais les agités, c'est tous ceux qui sont dans les dispositifs de réussite éducative. Et puis, un jour, on me dit, monsieur le maire, est-ce que vous ne voudriez pas recevoir les 25 jeunes là, de la réussite éducative? Moi, je suis un ancien officier de la marine marchande, donc j'ai des grandes photos aériennes dans mon bureau. Je l'ai dit, écoutez, pourquoi pas bon, vous faites attendre. Écoutez, ils viennent, et puis voilà. Et on a passé plus de 2 heures avec des gamins qui ne cessaient de poser des questions, car ils n'apprennent le comment que si on donne réponse à leur pourquoi.
Exactement.
Bon. Et je me suis dit, comment ces gamins pétillants d'intelligence et de malice, qui sont en échec scolaire, et ça m'a renvoyé, hélas, à mon vécu, et je sais la violence que l'on développe contre soi et contre les autres quand on est en échec scolaire. Et là, j'ai dit, là, j'ai un problème. Et en même temps, le commissaire de police de l'époque me dit, monsieur le maire, on commence à avoir un problème. Votre délinquance ne cesse de rajeunir. Et en plus, ce sont vos gamins les plus intelligents. Quand c'est des bourrins, ça va, nous, on sait courir derrière. Mais là, ça devient vraiment compliqué parce qu'ils sont, vicelards, quoi. Donc tout ça, mis bout à bout, je vous fais... Eh bien, je me dis, faut que je reprenne toutes mes politiques éducatives, mais de la crèche, depuis le début. Alors, j'avais déjà cette plateforme linguistique dont je vous ai parlé, j'en avais vu les bienfaits, et l'État, qui par ailleurs a plein d'autres financements du français, m'a dit, gardez votre plateforme, je sais que ce que vous faites avec, et on voit le fruit que ça a vis-à-vis de tes papas et de tes mamans, et des familles derrière, et la trajectoire d'intégration qu'ils ont.
Et il y a au moins une aide financière pour cette plateforme.
Ah oui,
l'État
oui,
quand même a participé.
Ah oui, absolument, tout à fait, et continue de participer, et protège cette originalité, puisque... Le format de cette plateforme est unique en France, alors que je pourrais éventuellement recourir à d'autres plateformes publiques, mais qui sont plus dans le béaba un peu utilitariste. Dès que vous savez lire une étiquette d'un flacon d'eau de Javel, vous êtes bon pour aller faire les ménages à Roissy ou à La Défense. Oui. Bon, pourquoi pas, mais non, nous c'est à partir de ces éléments culturels. Par exemple, aux cérémonies patriotiques, il y a toujours des mamans ou des papas qui apprennent le français qui viennent à nos cérémonies patriotiques. J'en mets trois à ma droite, trois à ma gauche, et on va poser ensemble la gerbe. Et souvent, ces gens-là ont les larmes aux yeux en disant « Mais merci, monsieur le maire, vous ne savez pas ce que ça veut dire pour nous, c'est que vous nous accueillez dans votre histoire. Vous nous la faites connaître, partager, mais vous nous accueillez quand ils vont raviver la flamme du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe. » Mais c'est vraiment des scènes de grande intensité en termes d'émotion, mais derrière, voilà, et derrière, après, on fait corps. Vraiment, on ne se croise pas de la même manière.
Donc, et juste, c'est un parcours de combien de temps pour ces personnes?
C'est un parcours alors, de minimum un an.
Oui.
Ça peut durer 3, 4, 5 ans pour certaines, parce que selon que les personnes sont déjà en possession du français, regard des pays d'origine ou pas du tout, qu'ils ont été scolarisés ou pas du tout, donc ils peuvent partir d'une situation d'analphabétisme total. Et donc il y a tout le cursus jusqu'à ensuite passer les différents diplômes ou qualifications, hein, B1, C1, enfin j'ai toute une nomenclature très, très, très particulière, et qui s'est d'ailleurs, et le gouvernement récemment a rehaussé les exigences en termes de maîtrise du français. Et donc il y a des mamans qui peuvent faire 5 ans avec un acte d'engagement solennel entre le maire, le préfet à l'égalité des chances et les papas et les mamans, une remise de diplôme officiel avec le préfet à l'égalité des chances, le maire, enfin les deux maires parce que Clichy et Montfermeil, voilà. Et puis un acte d'engagement, nous on leur dit on va tâcher de vous apprendre de la meilleure manière qui soit et le plus de choses possible, mais vous c'est assiduité, ponctualité, et c'est prévu pour, donc c'est à 9h moins le quart, donc je dépose le gamin à l'école. Je sors, je vais chercher mon gamin. Le mercredi, il n'y a pas cours, et les vacances scolaires, il n'y a pas cours. Tout le reste du temps, il y a cours. Les sorties sont obligatoires, les thèmes et les sujets, c'est nous qui les faisons. Quand ça couine un peu, on leur dit non, ça fait partie, ça fait partie du package. Pardon, parlez-moi du paquet.
Du paquet.
Non,
le cochon est derrière vous, faites attention.
Oui, j'ai bien vu, je suis traumatisé. Voilà, et donc les choses se tiennent de cette belle manière. Voilà.
Et comment est-ce que vous les identifiez, ces mamans, alors? À quel moment?
Au début, c'était pas évident, et j'ai dit à mes services, écoutez, à chaque fois que vous voyez une famille qui ne maîtrise pas à l'évidence le français, vous le lui dites. Bon. Et puis vous notez, quoi. Et puis j'ai dû aller à l'éducation nationale, enfin, regarder ces familles qui ne rentrent pas en communication avec vous, regarder les conséquences que ça a sur les enfants, vous devriez être aussi des prescripteurs. Bon. Et on a fait comme ça une fois, deux fois, si rien ne bougeait, la troisième fois, à titre uniquement sur les services municipaux, je ne pouvais pas engager l'éducation nationale là-dessus, on mettait un certain temps à satisfaire aux demandes.
Aux requêtes,
voilà. Et on expliquait, écoutez madame, il y a 6 mois, on vous a vu une voix, on vous a proposé. On vous a revu il y a 3 mois, on vous a refait la proposition. Mais madame, ou monsieur, comprenez que pour vos enfants, pour vous-même, pour la vie que vous allez... Bon. Et puis après, 3 ans après, c'était fini. C'était le bouche à oreille qui circulait. Et maintenant, les papas et les mamans se présentent d'eux-mêmes. Ils se donnent le mot au sein des différentes communautés. Et voilà. Et mon mot d'ordre, c'est pas de file d'attente et on prend tout le monde. Et je n'ai plus besoin d'avoir cette incitation que l'on a dû mettre en place il y a quelques années. Et voilà, et ça se passe très très bien. Et c'est extrêmement, extrêmement puissant. Donc tout ça permet déjà de mettre l'enfant, parce qu'on va revenir à l'éducation, avec des parents qui sont capables de reprendre leur rôle de parent, non pas qu'ils sont démissionnaires, et je n'aime pas ce jugement un peu hâtif sur les parents démissionnaires. Des parents dépassés, oui, il y en a, et la langue peut être un motif de dépassement, mais ça repositionne les parents dans leur rôle éducatif. Bon. Puis après, je vous ai dit, on reprend toutes nos politiques éducatives depuis la crèche. Bon. Et la crèche, alors il y a des trucs tout bêtes, mais c'est obligatoire. Il y a, alors j'appelle ça le café parent. Donc, il n'y a pas un mois sans qu'à un moment donné, les parents doivent prendre le temps, un quart d'heure, de prendre un café dans la crèche. Donc, ce n'est pas au moment où on dépote l'enfant et le moment où on le reprend, on est mal garé en warning, où est le truc. Bon, ce n'est pas là qu'on peut échanger. Donc, prenez un quart d'heure, café, discute, toc, toc, voilà. Et puis là, on apprend des choses. Mais madame, peut-être que vous pourriez vous adresser à tel médecin ou à telle, ou à telle consultation de ceci, ou, etc. Bon. Et on essaye, au-delà du fait qu'on doit bien s'occuper de l'enfant, regarder quelles sont les autres conditions de vie de ces familles, et si on voit des difficultés sociales, de santé, ou que sais-je, eh bien c'est d'avoir, à travers tout un maillage partenarial, de pouvoir les adresser, les suivre, les conseiller, etc. Voilà. Et donc, et les resituer et leur dire, et toujours redire, et mes services disent, n'oubliez pas, ce sont les parents premiers éducateurs de leurs enfants. Alors, c'est une évidence pour beaucoup, mais c'est bien de le redire, c'est bien de le dire aux parents, mais leur dire en disant, écoutez, vous débrouillez, hein, si vous avez des problèmes, c'est votre affaire, c'est pas la nôtre. Non, c'est votre responsabilité, mais si vous avez des problèmes, sachez qu'on peut vous aider, etc. Donc, il y a tout un accompagnement. Voilà. Et puis, l'enfant, il ne passe pas uniquement sa vie à l'école. Alors, si je n'ai aucun pouvoir sur les programmes, oui. Je n'ai aucun pouvoir sur les livres, oui. Ok, on pourra en faire une maladie. Par contre, l'enfant, il est peut-être dans la garderie avant l'école. Dans les maternelles, c'est du personnel communal, ATSEM, dans la période éducation nationale. Il mange à la cantine, ensuite il va au centre de loisirs, et puis ensuite il va faire de la culture, du sport, etc. Bon. Donc on a, ce que beaucoup de villes maintenant ont, un projet éducatif de territoire, PEDT, où par tranche de 3 ans, de la naissance jusqu'à à peu près 25 ans, la mission locale, eh bien, qu'est-on en droit d'exiger des enfants en termes de comportement, de tenue, de ceci, de cela? Que peut-on apporter aux parents qui sont confrontés à telle et telle difficulté au fur et à mesure que l'enfant grandit? Et tous les partenaires connaissent la règle. Et donc le gamin, qu'il soit à la garderie, à la cantine, à l'école, au pipeau, au foot, à, je ne sais pas où vous voulez, il va entendre à peu près la même chose. C'est cohérent. Donc si c'est cohérent, on ne joue pas. Mais s'il y a un maillon faible, il va jouer dans le maillon faible. Donc si on évite d'avoir le maillon faible, bon, et pareil pour les parents, il y a des jeunes par exemple, bon, ils rentrent dans la délinquance, premiers signaux, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est la police nationale que j'appelle? Pas forcément, ça peut être le club de foot. Bon, il y a un tel là, voilà ce qu'il a fait, c'est pas terrible. Ok, je m'en occupe. Deux dimanches sans match. Bon, il n'y en a pas trois. Hein. Voilà, une espèce de cohérence. Tout ça.
C'est une forme de proportionnalité en utilisant tous les acteurs.
Tous les acteurs.
Et les parents sont au courant de ce PEDT?
Oui, parce que, oui, absolument, parce qu'ils en ont connaissance, il est délibéré, il est expliqué.
D'accord.
Donc c'est pas leur insu, ils en sont acteurs premiers.
Et la question qu'on pourrait vous poser, est-ce qu'il n'y a pas chez certains la tendance à se reposer sur une architecture aussi bien organisée, j'allais dire?
Non, parce que les cafés... les cafés parents de la crèche, on a les mêmes au centre de loisirs, on a les mêmes un peu partout. Et si on sent effectivement qu'à un moment donné, on nous livre le colis et on nous sous-traite l'éducation du gamin, c'est là on rentre en discussion avec les parents, on essaie de voir ce qui se passe, etc. Donc c'est pas voilà, on ne favorise pas une forme d'assistanat ou une forme de déresponsabilisation. Au contraire, On intègre les parents, on a un centre social qui marche extrêmement bien, avec beaucoup d'ateliers parents-enfants, mais qui est débordé. Et alors, à travers des trucs tout bêtes, on a une médiathèque ludothèque, à travers le jeu, donc on développe ça dans toutes les écoles, dans tous les centres de loisirs, on organise un tas de rencontres parents-enfants, où c'est pas à la maison forcément qu'ils ont l'habitude, et que sais-je. Et là, il y a des retrouvailles, il y a des découvertes réciproques, de papa qui triche ou qui a envie de tricher. Enfin, moi, je suis le premier à tricher quand je joue, pour rigoler, mais bon. Et derrière, voilà, ça crée des dynamiques, ça crée de la relation avec les services. Et si c'est en jouant un jeu d'échecs avec son gamin que le papa confie à l'animatrice que, bah oui, il y a des difficultés à la maison, ceci, hop, et bien on dit, peut-être monsieur, pour y aller, voilà. En simplicité, en grande écoute, en grande attention aux signaux faibles, on va dire, mais de pouvoir créer un climat de confiance, d'adressage et d'aide pour que chacun reprenne ses prérogatives. Et de fait, voilà, on était en termes de niveau scolaire dans le dernier tiers de la Seine-Saint-Denis il y a une dizaine d'années, et on est remonté, alors c'était au moment du Covid, je n'ai pas eu les derniers chiffres, mais on était dans le premier quart de la Seine-Saint-Denis, et je reviens sur cette projection dans laquelle nos enfants sont aujourd'hui, avec de belles réussites, enfin, belles réussites. Celui qui vient faire un CAP de mécanique, c'est aussi une belle réussite, parce qu'il le veut, parce qu'il a cette intelligence-là, et il est tout fier de me parler, alors, etc. Donc, et ça change le climat d'une ville, ça change les relations entre... voilà. Donc, j'ai encore de la délinquance, mais on essaie de prendre les jeunes le plus tôt possible, et voilà. Et donc j'ai moins... Enfin, autrefois, j'avais des enfants, quand ils rentraient dans la délinquance, c'était leur plan de carrière. Ouais. Et 10 ans après, ils y étaient toujours. Là, on arrive à en sortir beaucoup. Quelques délinquants, je dirais, mais quelques délinquants invétérés que j'ai, c'est des gros trafiquants. Mmh. Ça, oui. Parce que les enjeux sont tout autres et on est passé à une toute autre échelle. Mais celui qui était le dealer de détail en bas de l'escalier, j'en ai encore quelques-uns, mais j'en ai pas des centaines comme j'en ai eu à une époque. Et là, on savait que...
Bon. Et vous on est obligé de vous poser la question, vous n'êtes pas, je vais être un peu direct, mais menacé par, en tant que personne, parce qu'on comprend que vous avez une approche très équilibrée avec tout le monde, sans tomber dans la caricature, c'est le vrai vivre ensemble, mais on sait qu'il y a des personnes, je ne parle pas de politique ou de religion, mais des personnes, disons-le clairement, des trafiquants de drogue, qui n'aiment pas le vivre ensemble, et qui n'aiment pas... Enfin, qu'il y ait de la stabilité à la condition qu'elles permettent leur trafic. Et cela ne vous pose pas un problème, je dirais, assez direct.
Alors, lorsque j'étais jeune maire et qu'on a commencé à mettre en place tous ces éléments-là, que ce soit le plan Borloo, la rénovation urbaine, la démolition d'un certain nombre de bars, la reconstruction à échelle humaine, que, bon, oui, j'ai été même sérieusement menacé, puisque tous les carreaux du rez-de-chaussée de la maison ont été cassés, il y a eu 3 tentatives d'incendie de la maison et la voiture brûlée. Et 2 de nos filles qui ont été très sérieusement agressées, et ça s'est fini aux urgences médico-judiciaires de l'hôpital de Bondy. Et 2 de mes filles, enfin, une n'est jamais revenue vivre à Montfermeil, quant à la seconde, c'est nous qui partions dans le Nord garder les enfants, mais elle ne nous les a jamais confiés. Bon. Donc la famille a été très, très éprouvée par ça, on a vécu sous protection policière pendant plusieurs mois de suite. Bien. 10 ans après ces faits, un des jeunes ayant participé à toutes ces manifestations festives pour eux est allé voir mon épouse, Béatrice, qui pendant 20 ans a fait de l'alphabétisation au sein des Bosquets, est allé voir dans sa classe, et mon épouse me dit, mais quand je l'ai vu rentrer, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qui va se passer? Et ce garçon que je connais bien, qui maintenant quelqu'un de confiance et avec qui je travaille bien, dit, Madame Lemoine, vous direz à votre mari... C'est lui qui avait raison. On n'a pas toujours été gentil avec vous. 10 ans, c'est pas grave. Ça a été dur, on l'a payé. Mais 10 ans après, et aujourd'hui, donc, nous avons eu ça. C'était très difficile. La maison continuellement caillassée, les canettes de bière, machin, toutes les détritus qui nous... Bon, bref, peu importe. Aujourd'hui, c'est pas ça. Ce sont des jeunes, quel que soit leur âge, on circule en moto dans la ville... Quel que soit leur âge maintenant, c'est bonjour monsieur le maire, ah ben, la ville a bien changé, enfin, j'ai des témoignages, aujourd'hui nous cueillons le fruit de tout ce travail-là. Il a été rude, mais il donne des... Voilà.
Et comment faites-vous pour que toute votre équipe soit sur la même longueur d'onde?
D'abord, on essaie de faire des équipes qui soient représentatives de ce qu'est la ville. Premier point. Deuxième point, j'ai mis un point d'honneur à ne jamais introduire de la politique politicienne dans les campagnes municipales et dans les constitutions de liste. Il peut y avoir des gens qui militent. Je leur dis, vous militez à l'extérieur, le premier qui ramène, enfin qui dit au nom de mon parti, je pense que, c'est dehors. Moi, si je vous ai choisi, si je vous ai demandé de venir, c'est parce que je vous estime bon président d'association, bon entraîneur, bon commerçant, bon médecin, bon ceci, bon cela. Vous pouvez avoir et je leur donne à lire le note pour la suppression générale des partis politiques de Simone Veil, juin 1940, Londres. Donc je leur dis, voilà, même si moi j'ai pu être encarté, mais en restant tout à fait libre de mes convictions, de mes fréquentations et de mes
choix.
Et de mes choix, puis et de mes paroles. Voilà. Bon, ça c'est la première chose, sur un spectre assez large, et il m'est arrivé à plusieurs reprises de débaucher des gens de l'opposition à qui je reconnaissais un vrai savoir-faire, une capacité à écouter et à proposer, ne pas être sur des lignes doctrinelles. Bon, ce qui fait que, voilà, donc le score que nous pouvons faire, on a fait 64% au premier tour, on retrouve le score inverse à toutes les élections nationales. Voilà, donc je ne représente pas la sociologie politique de la ville. Mais la ville considère que ce qui est fait pour eux mérite d'être gardé. Donc c'est la dichotomie dans laquelle on est, mais ça se passera bien. Et les équipes, ils suivent très bien. Puis j'ai le personnel, je vous ai dit, un maire fait 40 métiers à la fois. Une fois qu'on a bien saisi les atouts, les faiblesses de sa ville, tous les enjeux stratégiques, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 40 métiers, on essaie de les projeter à 20 ans, 3 mandats à peu près. Si toute l'équipe est d'accord, toute l'équipe est d'accord. Et pour les arbitrages quotidiens, est-ce que ça concourt à notre projet? Oui, non, oui, on fait, non, on ne fait pas. Si la direction générale, le personnel, je dirais c'est toujours la question des tailleurs de pierre. Les 3 tailleurs de pierre, qu'est-ce que je fais? Je taille une pierre. C'est pas faux, mais c'est l'acte immédiat et sans forcément le sens final. Deuxième tailleur de pierre, même geste, même pierre, même marteau, même burin. Je construis un mur, et le troisième répond, je construis une cathédrale. Et pourtant, donc j'essaye plutôt, et je raconte souvent cette histoire-là pour dire à mes collaborateurs, voilà, je vous livre tout ça, vous avez tous les tenants et aboutissants, toute la réflexion, un peu comme on peut le faire en ce moment, pour que vous compreniez ce vers quoi je souhaite que nous puissions aller collectivement. Il y a la ligne que j'essaye de donner, et puis apportez-nous également votre vision, et à chaque fois que vous percevez des signaux faibles, parce que vous êtes au contact avec la réalité, bien plus que je ne peux l'être, vous me faites remonter ces signaux faibles pour que tout de suite on les interprète et on puisse modifier si nécessaire le l'action. Et puis ensuite, raconter à la population, voilà, et puis tous les partenaires, et quand je vais voir l'État, quand je vais voir la région, le département, l'Europe, ou que sais-je, quel que soit le financeur, la caisse d'allocation familiale, la caisse des dépôts, tous les financeurs possibles, soit c'est un caprice, je voudrais ça, soit je leur dis, j'ai besoin de ça dans le cadre d'eux, et voilà. Et là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de convaincre ses partenaires de s'engager même durablement, même des fois ils viennent me revoir en disant, monsieur le maire, on a une queue de crédit là, est-ce que vous n'avez pas un truc? Parce que, voilà, ils voient la manière dont l'argent est utilisé, me semble-t-il, à bon escient. On peut toujours critiquer et contester, mais voilà. Donc ça aide dans la vie quotidienne de la collectivité.
Alors, on est vous demander d'abord le préfet, relation avec le préfet, parce que, sans vouloir dire trop de bien de Xavier Lemoine, visiblement, vous avez atteint une forme d'équilibre, 64% pour une réélection, donc au premier tour, etc. Est-ce que ça donne envie au préfet de dire aux autres maires, allez voir ce qui se passe? Ou est-ce que les maires eux-mêmes, de leur propre initiative, ont envie? Ou il y a un peu de jalousie, pour le dire très clairement?
Alors, le préfet ne peut pas se permettre ça, parce qu'il doit respecter absolument la distinction des ordres. Et ce serait malvenu ou mal perçu, je crois, par un collègue si un préfet lui disait je ne le vois pas pouvoir s'aventurer facilement sur ce terrain-là. Il doit être dans le respect scrupuleux de ce que le maire en question veut pour sa ville, quand bien même il penserait que les choses ne sont pas forcément bonnes. Donc là, il y a une difficulté. Sur mes collègues, ils regardent.
Clichy est juste à côté et vous êtes assez lié avec Clichy.
Très, très lié avec Clichy.
Ça ne leur donne pas envie de faire, parce que ce n'est pas l'image qu'on a de Clichy-sous-Bois, avec tout le respect.
Peut-être. Tout ce qu'on peut faire ensemble, on le fait.
D'accord.
Et la plateforme linguistique, on a mis 20 ans, alors je l'avais développée sur la ville de Montfermeil, Clichy faisait autre chose. Et au bout de 20 ans, Clichy a dit, ok, tu prends le lead et on fait la plateforme pour nos deux villes. Ça prend du temps.
Tu prends la direction, hein, j'ai mal entendu.
Oui, pardonnez-moi. tu prends la direction. Bon. Voilà. Et donc les choses se font progressivement. Après, pour les autres collègues, ils regardent. Et je m'interroge, je ne pense pas avoir été capable de leur donner le fond qui m'animait. Parce qu'on peut imiter un défilé de culture, on peut imiter un son lumière, on peut imiter une politique éducative. Mais quel est le fond qu'on y met? Qu'est-ce que l'on dit aux équipes? Jusqu'où va-t-on dans la réflexion?
Quelle cathédrale voulez-vous bâtir?
Voilà. C'est ça. Quelle cathédrale voulez-vous bâtir? Et quels sont les soubassements anthropologiques, philosophiques, même religieux, pourquoi pas? J'ai pas peur. Voilà. Et là, je sens des fois une hésitation, une difficulté. Voilà. Ça changera peut-être, et peut-être que les événements les pousseront à aller plus loin dans la réflexion au regard des enjeux que d'autres pays connaissent.
C'est très pragmatique. Moi, si j'avais quelqu'un à côté de moi, enfin, moi je viens du monde de l'entreprise, quand on voit quelqu'un à côté qui fait quelque chose qui donne le sentiment de réussite, on a juste envie de le copier, j'allais presque dire bêtement. J'ai vu ça dans tous les domaines, même avec des purs concurrents. Tiens, finalement, telle approche, on n'y avait pas pensé. Dans ce cas-là, d'ailleurs, on n'est pas concurrent. Il arrive qu'on se dise des choses. J'ai même vu des grandes entreprises industrielles, puisque c'était un peu mon secteur, partager beaucoup sur le plan d'utilisation d'outils informatiques, parce que ce sont des outils complexes, et qui disaient, on est concurrent sur le terrain, quand il s'agit de vendre des voitures, par exemple, mais en amont, au domaine de l'ingénierie, pourquoi ne pas partager des valeurs communes qui pourraient servir à tout le monde? Et donc, moi, je serais... au hasard, je vais dire à M. Bakayoko, pour ne pas le citer, je lui dirais, tiens, j'irai bien voir ce qui se passe à Montfermeil pour mettre un petit peu moins d'émotion dans une certaine ville de votre département.
J'ai quelques collègues qui sont venus.
Pas lui.
Pas encore. Non, mais je le fréquente à la métropole. On s'est retrouvés ensemble à des tables rondes. Et puis, et pourquoi pas, et à la limite, moi, ça me challenge. Pardon, ça me... comment on dit ça me stimule aussi de me confronter à d'autres visions, surtout celle de M. Bagayoko, qu'il faut regarder de très près, parce que ce qui se joue est important.
Absolument.
Et justement, il n'y a pas de partage entre maires comme ça, un tour de France
Non, simplement chacun présenterait.
J'ai quelques collègues de droite et de gauche avec qui, effectivement, j'arrive à échanger, parce que... on peut discuter culture, je vais paraître prétentieux et je ne voudrais pas surtout pas l'être, mais ils ont compris que gérer une ville, il faut connaître la finance, il faut connaître un certain nombre de choses, mais c'est au-delà, et les enjeux culturels au sens fort du terme culture, il faut pouvoir discuter, puis il faut peut-être avoir une vision de l'homme, de l'anthropologie, de la société. Alors, on peut diverger des fois, on peut même être en désaccord, mais c'est pas grave. Au contraire, j'aime cela, et puis je regarde... Je n'aurais pas été très étroitement lié à Clichy-sous-Bois, et j'aurais été tout seul dans mon coin. Je n'aurais pas été le même maire. Et je reconnais ce que je dois à la gauche, et je sais que lui aussi, de leur côté, regarde ce qui se passe à Clichy, à Montfermeil. Et je pense que si Montfermeil n'avait pas été à côté de Clichy, peut-être qu'il n'aurait pas été le même maire ou n'aurait pas mené forcément les mêmes politiques. Donc, j'essaie d'être dans cette interaction pour bien comprendre toutes les cultures qui sont à l'œuvre, toutes les dynamiques qui sont à l'œuvre, qui sont profondes, qu'on ne maîtrise pas, avec des sujets... Donc, quand on va regarder sur le côté de la colonisation, de l'esclavage, etc., qui sont des sujets clivants, que les médias traitent de manière un peu binaire, mais que, quand je reçois des témoignages de gens qui ont été concernés par leur famille et par les souvenirs de leur famille, je ne peux pas rester indifférent. Et ça, ça réinterroge ce que j'ai pu lire, ce que mon milieu m'a peut-être apporté, etc. J'essaie de comprendre sans forcément basculer de l'autre côté et d'aggraver le clivage. Donc, voilà, il y a, me semble-t-il, une très grande sensibilité à avoir, trouver les mots justes. Je prends une autre... alors, peut-être que c'est un sujet difficile à manier à Radio Courtoisie, peut-être, c'est possible, je n'en sais rien, mais je prends le risque, parce que de toute façon, je l'ai fait. La question de Gaza. La question de Gaza
a
tout changé dans nos quartiers. Tout changé. Alors, je ne sais pas si je peux faire cette digression.
On peut tout faire ici.
Bon, non, mais...
c'est un libre journal de l'école.
Oui, enfin, là, on s'en éloigne un peu, mais... Voilà, enfin, j'étais... Moi, j'étais voir trois fois de suite le préfet. Parce que, un jour, dans une réunion de cadre, dans ma mairie, je l'interroge, certains qui sont de culture ou de confession musulmane. Et je leur parle de Gaza, et les larmes aux yeux me répondent « Merci, monsieur le maire, de nous parler de cela. Nous n'osons pas en parler pour ne pas apparaître antisémite. » Signaux faibles. Je recommence à l'hôpital, je suis président du conseil de surveillance, là, à dessein, pour voir si ça, je provoque la même chose. Et j'étais voir le monsieur le préfet. Ce qui se passe, place de la République, place de la Bastille, tous les soirs ou tous les week-ends. Ça, c'est documenté, vous savez tout, sur tout le monde, c'est parfait, vous connaissez toutes les associations, toutes les tendances. Mais là, vous avez un ressentiment dans nos chefs de bureau, dans nos secrétaires de direction, etc. Un non-dit qui ne s'exprime pas, mais qui bouillonne. Une fois, deux fois, trois fois, il m'a dit, au bout de la troisième fois, il m'a dit, écoutez, mes services ne me disent rien. Ok, j'ai demandé, ils ne me disent rien. J'ai fait une réunion, j'ai rien su pendant la réunion, c'est uniquement dans le tête-à-tête avec certains que certains... J'ai commencé à comprendre. Et quand les résultats des européennes sont arrivés, ah, on n'avait rien vu. Bon. Et moi, je ne voulais pas... Bon. Donc, à un moment donné, j'ai eu l'idée de mettre sur le fronton de la mairie le drapeau palestinien, mais avec cette phrase, « Seigneur, point d'exclamation, pardonnez-nous, trois petits points de suspension. » Ça ne sert à rien de se balancer des résolutions de l'ONU, des invectives et des résolutions de l'ONU sans fin. C'était juste de dire, essayons de reprendre de la hauteur, mais voilà. Et tout de suite, un référé est tombé de la part du préfet, j'ai été condamné, parfait, j'ai décroché. Mais les gens sont des gens que je ne connaissais pas. Merci monsieur le maire de considérer qu'on puisse souffrir de ce qui se passe là-bas. Et j'ai pas eu du Free Palestine, là-bas Israël, etc. On n'était pas dans cette dialectique-là. C'était merci monsieur le maire de considérer qu'on puisse. Donc des fois, il faut essayer de, sur des sujets extrêmement présents, qui sont très rapidement médiatisés et binarisés, on va dire.
Noir ou blanc tout de suite.
Bah, essayer de trouver le mot juste. Voilà. Bon, j'ai dû m'expliquer avec le CRIF, j'ai dû m'expliquer avec...
Ouais, je reviens un peu à l'école, le après. Parce que ce que vous racontez est tellement passionnant qu'on vous laisse parler. Le après, c'est-à-dire les élèves, est-ce qu'il y en a qui font des études? J'ai fait un mini-stage au lycée de Bobigny. Et quelque chose qui m'avait beaucoup surpris, c'est la fuite des Maghrébins, qui sont plutôt bons en maths, vers les grands lycées parisiens. Et il restait plutôt les populations des Bengalis, les Pakis, comme ils disent, etc. Et est-ce que vous avez le même phénomène, une forme de, si j'ose dire, de ségrégation intra-communautaire?
Alors non, pour Montfermeil, puisque nous avons la chance de ne pas avoir de lycée, et de dépendre du lycée de la ville du Rhincy, le Schweitzer, qui est l'un des meilleurs de la Seine-Saint-Denis, qui est également doté de prépa. Et donc ceux qui intègrent Schweitzer, ils sont sur...
bonne voie.
Ouais.
Et ce n'est pas qu'une certaine catégorie
non,
de population.
Non, on retrouve là pour le coup une mixité, une vraie mixité que je n'ai pas forcément. Enfin, quoique sur la ville on pourrait s'entendre sur la mixité, parce que j'ai eu une vraie désaffection de la population de Montfermeil pour l'école publique, y compris les collèges. Et après toutes ces politiques et toutes les autres dont je n'ai pas forcément parlé, mais avec les centres de loisirs, les services jeunesse, etc., et plein d'autres dispositifs, eh bien on a vu les familles remettre leurs enfants dans nos écoles, au collège, sachant que derrière, il y avait Schweitzer. Et puis si c'était le lycée technique, avec deux, trois bons, très bons lycées techniques derrière, et avec un boulevard pour les jeunes.
Et vous avez quelques vedettes qui ont 25 ans, qui ont fondé leur boîte après l'X et qui viennent en parler?
J'en ai quelques-uns. J'ai de très belles réussites. Alors c'est vrai que pour le coup, quand il y a des réussites économiques, si j'ai la chance qu'ils commencent à Montfermeil, très rapidement ils repartent sur la Seine-et-Marne, sur Disney, sur Marne-la-Vallée, ou Paris. Voilà. et que je n'ai pas ce qu'il faut à ce jour.
Ça pourrait montrer à ces jeunes dans cette logique de
mais
projection.
Mais ça se sait, ça se sait. On n'est plus... Mais vraiment, enfin, tous les jeunes, je suis surpris, ils savent absolument ce qu'ils veulent. Ça, c'est la grande nouveauté de ces dernières années pour les jeunes de Montfermeil.
Alors, compte tenu, je dirais, de la situation d'immigration, vous n'êtes pas touché par la crise démographique, vous n'avez pas d'école de classe à fermer, c'est ça ma question.
Non, on maintient. Ouais. On maintient.
Combien de collèges avez-vous?
On a deux collèges. Deux collèges et on déborde maintenant sur la ville d'à côté parce qu'effectivement, le nombre de collégiens croît un peu. On a 3 300 enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires pour 28 000 habitants. On est une des villes les plus jeunes de Seine-Saint-Denis. Et non, c'est bien.
Et alors, des questions qui crispent. On sépare les garçons des filles à la piscine. C'est quoi ça? Ça vous arrive?
Pas Montfermeil, mais j'aimerais avoir une piscine ou avoir des lignes d'eau, parce que ça fait 2 ans que j'en ai plus. Mais on ne sépare pas. Non.
Il faut réparer la piscine.
Oui, pour l'instant, j'en ai pas. Mais on ne sépare pas.
Deuxième sujet, les VARS, l'éducation à la vie sexuelle. Est-ce que les gens commencent à en parler?
Oui, c'est la plus grande crainte des parents. Et quand ils mettent leurs enfants, ils voient la directrice ou le professeur en disant « Est-ce que vous serez bien là ?» On a encore, là, on a su restaurer le lien de confiance entre les familles et les professeurs. En plus, j'ai des équipes pédagogiques qui sont assez stables avec des professeurs ou des directeurs qui ont quasiment fait toute leur carrière sur Montfermeil et ça continue. Et même les jeunes essayent de rester. Et sur les EVARS, j'ai fait 2 éditoriaux sur ces questions-là, en disant aux familles, regardez bien ce qui se passe. J'ai fait venir au dernier forum des associations Maman Louve, voilà, en disant, écoutez, renseignez-vous. Voilà. Et donc les gens sont, et dans la communauté musulmane, ces questions-là remplissent les réseaux sociaux à partir de fin août, début septembre. C'est un vrai sujet c'est un vrai sujet. Et là aussi, je suis allé voir plusieurs fois le préfet en disant « Attention avec ça, vous allez refaire ce que vous avez fait avec la théorie du genre à l'école en 2013, et vous avez recréé le phénomène des JRE, les journées de retrait de l'enfance, c'était Farid Abelghoul à l'époque. Attention à ça. » Bon, donc je me suis même fâché avec l'éducation nationale, puisque j'avais pris la parole devant tous les directeurs de ma ville pour leur dire « Attention, ça ne me regarde pas, vous n'êtes pas sous ma responsabilité, mais je peux vous dire... » La grande inquiétude des familles, et je pense qu'il ne faut pas jouer avec ça, ça m'a coûté un peu cher, mais finalement, je pense avoir été entendu et qu'ils y vont mezzo voce. On a le droit, c'est pas anglais.
Oui, ça va.
C'est du latin.
Ouais, ça peut aller.
C'est l'italien plutôt. L'italien, c'est du latin qui a débordé.
Merci d'avoir entendu l'urgence. Voilà. Bon, donc effectivement, j'ai été amené à prendre position publiquement pour alerter les familles qu'elles-mêmes se documentent et puis qu'elles disent ce qu'elles ont à dire au regard de leur rôle éducatif.
Mais si la règle est respectée et que la journée ou les journées d'éducation ne sont pas annoncées à l'avance, ce qui est...
Non,
pour
mais
l'instant,
ils,
le principe...
Ils ne vont pas jouer avec ça.
C'est une folie.
Non, mais je sais bien, mais en Seine-Saint-Denis, je pense qu'ils ont compris que...
Je pense que ce sera... Voilà. Ce sera mezzo voce un peu amélioré. Un mot de conclusion, parce que malheureusement, l'heure tourne. Je pense qu'on pourrait passer de très longues heures avec vous et ce serait tout aussi passionnant. Mais je vous avais posé une question. Qu'est-ce qui a changé depuis 2002? Mais finalement, il y a beaucoup de choses qui ont changé parce qu'il y a une politique fondée sur... quelque chose d'architectonique, hein, je vais reprendre tout simplement Saint-Thomas d'Aquin, parce que, et donc la culture, et puis il n'y a pas de comment, s'il n'y a pas le pourquoi, et cette progression, donc ça c'est formidable. Est-ce que vous avez un message pour un jeune maire qui se lance dans ses priorités, à propos bien sûr des questions scolaires, puisque ce sont celles qui nous intéressent?
Partir de la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit, voilà, à partir de cette réalité-là, aussi cruelle soit-elle, et tout est dans tout. L'éducation, il a fallu des conditions extérieures pour que les politiques strictement éducatives portent leurs fruits. On aurait pu parler de la sécurité. La sécurité, soit c'est du maintien de l'ordre, donc ça c'est CRS, gendarme mobile, c'est ordre contre désordre. Après la sécurité, c'est, bon, il faut être là pour que le premier qui sort la tête, on puisse le rattraper. Et là maintenant, on est dans la tranquillité publique. Mais la tranquillité publique, c'est pas plus de policiers, c'est pas plus de caméras, c'est pas plus de tout ça. C'est la conséquence et le résultat de toutes ces politiques que l'on a évoquées ce matin et qui donnent cette convivence et cette tranquillité publique C'est le résultat. Et donc, la sécurité de la ville de Montfermeil, c'est pas par la police. Alors, il a fallu, à un moment donné, bien sûr, réaffirmer l'ordre. Ça a été très dur. J'en ai payé les conséquences, etc. Mais aujourd'hui, les choses voilà. Et donc, tout ça pour dire que il faut prendre ces 40 métiers à la fois. L'architectonique, j'y crois, et que tout est dans tout, parce que je dirais vouloir obtenir de la sécurité et des réussites scolaires dans des environnements dégradés en termes d'habitat. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc tout se tient.
Monsieur le maire, d'abord un grand bravo.
Merci. Ouais,
merci. Bon courage pour les années qui viennent quand même.
Oui, bah attendez, j'entends de former la suite là, parce que bon.
La prochaine génération.
Oui, mais elle est là. Wow. Elle est même bien là.
Et c'est celle qui a été élevée à Montfermeil.
Ah oui, c'est très drôle en ce moment. Je vis des choses avec les jeunes très. Voilà. J'ai pas toujours été leur papa. Bon, et maintenant, ils me considèrent comme. Ils me disent, mais finalement, monsieur le maire, moi, j'ai grandi qu'avec vous. Et oh, vous n'avez pas toujours été drôle, hein, vous avez beaucoup changé. Puis avec un petit air malicieux, peut-être que nous aussi, on a changé. Voilà. Donc c'est des choses, c'est des
merci
subtiles
pour ce
alchimies.
Très beau témoignage en tout cas.
Merci à vous.
Merci beaucoup, monsieur Lemoine. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver les manuels, enfin les ouvrages des éditions Critérium. Donc, les petits chats lisent ou les petits chats écrivent aux éditions Critérium. Et puis, donc, les cahiers de vacances Jules et Léonie à 10,90€ simplement.
L'ingénieur espère les petits chats qui calculent un jour.
Ah, mais ça viendra, ça viendra. En tout cas, nous vous souhaitons un bel été et nous vous remercions.
Merci beaucoup.
Au revoir, Hervé.
Au revoir.
Et merci à Claudia pour la régie.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
C'est ce sacré Charlemagne.
Venez d'entendre le libre journal de l'école dirigé par Florence Leroux et Hervé Roland, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 29 juin 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Et je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.